Du message ce matin, c'est l'Évangile selon Nabucodonosor, et on va aller voir dans le chapitre 4. Ce sera notre chapitre 4 dans la série sur Daniel. Alors, vous avez peut-être eu la chance au cours de votre vie de voir un ancien moulin actionné par une roue hydraulique, où l'eau du ruisseau coulait et faisait tourner la roue, ce qui amenait la tige du mécanisme à l'intérieur du bâtiment de moudre le blé et en faire de la farine. Si le meunier arrivait un jour au moulin et qu'il découvrait que la roue ne tournait pas parce que le ruisseau était bouché, il pouvait pousser la roue de toutes ses forces et essayer de la faire tourner, il n'y arrivait pas. Il pouvait même faire appel aux hommes qui habitaient les fermes environnantes pour l'aider. Leurs efforts demeuraient vains jusqu'à ce qu'ils montent la crique et retirent les bûches mortes et les débris qui empêchaient l'eau de circuler dans le ruisseau. Une fois ces obstacles éliminés, l'eau redescendait et la roue recommençait à tourner. Aujourd'hui, des pasteurs et des dirigeants chrétiens s'efforcent partout à essayer de faire tourner les roues. Les bulletins d'église énumèrent toutes sortes d'activités. Les membres de l'église sont invités à visiter les gens, à les appeler, à chanter dans la chorale, à inviter d'autres personnes à l'église et à prier pour leur réveil, et il n'y a rien de mal avec tout cela. Il me semble que ce que je viens de dire correspond à la situation de l'église en Occident. Nous savons comment faire et nous avons toutes les ressources nécessaires pour y arriver, mais nous n'avons tout simplement pas l'eau. Je crois que nous devons remonter les cours d'eau de nos vies et rechercher non seulement les bûches qui provoquent des embâcles, mais examiner avec soin tout ce qui empêche la circulation de l'eau qui vient d'en haut, d'agir et en prendre soin. Ce dont nous avons besoin, c'est une bonne dose de repentance à l'ancienne. C'est un mot que vous n'entendez pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'est un mot qui ouvrira les écluses des cieux et qui verra Dieu déverser de grandes bénédictions plus rapidement que n'importe quel programme ou travail fait par la main des hommes. Le chapitre 4 nous présente un roi puissant et orgueilleux, jusqu'à ce qu'il soit brisé par le Seigneur. Il a fini par se repentir et Dieu l'a béni. La chose qui manquait dans la vie de Nabucodonosor fait cruellement défaut dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Cette chose, c'est un esprit brisé devant le Seigneur et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer à travers le chapitre 4. Et quand je parle de brisement, je ne parle pas ici de quelqu'un qui veut montrer qu'il s'est repenti en portant un sac sur son dos, comme dans l'Ancien Testament, et en se mettant de la cendre sur la tête. Je ne parle pas non plus de quelqu'un qui monte des marches en pierre sur des genoux pour essayer d'impressionner Dieu. Si jamais vous allez visiter le Québec, particulièrement à Montréal, sur le Mont-Royal, eh bien, il y a une grosse basilique qu'on appelle l'Oratoire Saint-Joseph. Et pour ceux qui sont de foi catholique, espérant expier leurs péchés, il y a à peu près 365 marches, et vous voyez des gens qui ont de la difficulté à marcher, qui montent les marches une par une, en récitant « Je vous salue Marie », qui montent les marches une par une, en espérant arriver en haut, que sur les 365 marches qu'ils auront montées, bien, ils auront 365 péchés effacés. Quand je parle de brisement, ce n'est pas de cela que je parle. Lorsque je parle de brisement, je parle d'un cœur qui demeure dans un esprit d'humilité devant le Seigneur. Je parle de quelqu'un qui voit non seulement son cœur tel qu'il est, mais qui voit aussi le Seigneur tel qu'il est. Le brisement, c'est simplement avoir une disposition d'esprit où le cœur ne désire rien d'autre que de faire la volonté de Dieu. C'est être dans une position d'esprit où le Seigneur peut vous utiliser pour sa gloire. Pour le chrétien, cela signifie être dans une disposition d'esprit qui l'amènera à s'abandonner entièrement au Seigneur afin qu'il puisse ressembler jour après jour à la personne de Jésus-Christ. Pour le pécheur perdu, c'est être placé dans une situation où vous voyez votre propre besoin au point de vous tourner vers le Seigneur pour que ce besoin soit rencontré. Certains peuvent se demander pourquoi il est si important d'être brisé devant le Seigneur, tout simplement parce que Dieu utilise de façon plus importante ce qui est brisé que ce qui est rigide et rebelle à se soumettre à sa volonté. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire, il utilise les personnes et les choses qui ont été brisées. Ce sont là les sacrifices dans lesquels il se réjouit. C'est après que Jésus a rompu ou brisé les pains que le pain s'est multiplié pour nourrir la foule venue l'entendre. C'est quand Marie a brisé un beau vase d'albâtre, et qu'elle répandit le parfum sur la tête de Jésus, que le parfum qui était emprisonné dans le vase a envahi toute la maison. C'est quand Jésus a permis à son corps d'être brisé par les épines, le fouet et la lance que cela permet à tous ceux qui veulent se repentir de leurs péchés aujourd'hui d'être réconciliés avec Dieu. J'aimerais regarder avec vous ce matin les étapes que Dieu va utiliser pour amener Nabucodonosor à être brisé. Parce que ce sont les mêmes étapes que Dieu utilisera dans votre vie, dans ma vie, si nous ne voulons pas nous incliner humblement devant lui. Le passage de ce matin vise à nous amener à nous examiner minutieusement afin de voir s'il n'y a pas des zones cachées qui auraient besoin d'être traitées dans notre cœur. Et je crois que peu importe si vous êtes chrétien ou non ce matin, ce message s'adresse à tous. Il peut littéralement changer votre vie si vous suivez attentivement ce message et si vous répondez à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, sous le regard du Seigneur, j'aimerais vous parler pendant quelques instants du chemin qui a mené au brisement dans la vie de Nabuchodonosor. Et pour bien comprendre ce principe, il est important de revoir le contexte des chapitres 1, 2 et 3. On va voir le contexte très, très rapidement, mais on a besoin de se rappeler de se rappeler certaines choses dans le chapitre 1, 2 et 3 pour comprendre de quelle façon Dieu va utiliser pour briser finalement Nabuchodonosor. Dans le chapitre 1, au verset 1, il est écrit qu'à son époque, Nabuchodonosor était l'homme le plus puissant du monde. Il gouvernait le royaume de Babylone et personne n'avait son pouvoir ni sa puissance militaire sur toute la surface de la terre. Dans le verset 2, la Bible nous révèle que c'est le Seigneur qui livra le roi de Juda, Joachim, dans les mains de Nabuchodonosor. Il connaissait du succès militaire, et politique, parce que c'est le Seigneur qui lui permettait, mais il n'avait pas encore compris qui était vraiment Dieu. Et il y a des gens qui fréquentent des églises et qui louent le Seigneur, mais qui n'ont pas encore compris qui était vraiment Dieu. Frères et sœurs, il n'y a personne qui peut connaître du succès si Dieu ne le permet pas, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu a un plan pour chacun de vous et pour moi. Nous ne sommes rien de plus que ce que Dieu, dans sa volonté souveraine, nous a permis d'être. Il faut vraiment être rempli d'orgueil, comme c'est le cas pour le roi Nabuchodonosor, pour se vanter d'avoir accompli des choses par nos propres forces en Christ. Après tout, si nous réfléchissons bien, nous serions toujours destinés à être perdus pour l'éternité et à nous retrouver en enfer ce matin, si Dieu n'était pas intervenu dans votre vie et dans ma vie. Il mérite que nous lui rendions grâce ce matin pour tout ce que nous avons et pour tout ce que nous sommes devenus. Bien que Nabuchodonosor était un roi grand et puissant, il méprisait le Seigneur. Il était puissant et il régnait sur tout, mais il ne voulait rien savoir de Dieu et encore moins chercher à faire sa volonté. Frères et sœurs, il en est de même pour la grande majorité des 7 milliards de personnes qui vivent sur cette terre aujourd'hui. Ils sont spirituellement morts à cause de leurs fautes et à cause de leurs péchés. Ils vivent selon les désirs de leur propre nature et ils accomplissent ce que leur corps et leur esprit veulent. Vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez dans la vie à cause de la position que vous occupez ou de l'argent que vous possédez. Mais si vous mourrez sans Jésus, qu'avez-vous accompli par vous-même? À quoi sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Y a-t-il quelque chose que quelqu'un puisse donner pour racheter sa vie, dit Jésus? Malheureusement, beaucoup de chrétiens professants agissent de la même manière que ceux qui sont perdus. Ils décident eux-mêmes ce qui est bien ou mal, sans se soucier ni de Dieu, ni de connaître quelle est sa volonté. En vérité, ils vivent comme si Dieu était mort. Ils font partie de cette catégorie de chrétiens qui insistent pour continuer à vivre dans leur péché et qui refusent de se repentir et de s'humilier devant le Seigneur. Ils sont une plaie pour le nom de Jésus. Ils ne sont sûrement pas animés d'un esprit d'humilité et ils n'ont jamais été brisés par le Seigneur. Il y a des milliards de gens qui, comme Nabuchodonosor, refusent de reconnaître Dieu dans leur vie. Dans le chapitre 2, on va voir que dans cette vie qui est la nôtre, Dieu nous a confié l'immense responsabilité du libre arbitre. Nabuchodonosor avait le libre arbitre, Dieu n'a jamais forcé Nabuchodonosor à changer. Jamais Dieu va vous forcer à changer, il vous aime trop pour vous forcer à changer. L'amour, le véritable amour, ne force jamais quelqu'un à changer. Je connais un musulman qui se vantait à Verviers que sa femme lui était fidèle et qu'elle ne pourrait jamais le tromper. Ben oui, mais avant de partir de chez lui, il verrouillait toutes les portes, il verrouillait les fenêtres, et il allait jouer aux cartes toute la nuit. Alors, il était certain que sa femme ne pouvait pas le tromper. Mais s'il avait demandé, s'il lui avait dit, « Écoute, tu vas me montrer que tu m'aimes, tu m'as dit que tu m'aimais, que tu ne me tromperais jamais, bien, je te laisse la liberté. Je te laisse la liberté de le démontrer dans les rencontres que tu auras et dans toutes les choses que tu feras. Ça, c'est l'amour. Et Dieu, c'est la même chose pour nous. spirituellement parlant, il nous dit, moi, je ne te force pas à m'obéir, mais démontre-moi finalement que tu as fait cette rencontre avec Jésus en obéissant à ce que je te demande. Mais je ne te forcerai pas. Je ne t'aimerai pas moins. Ça va m'attrister parce que tu affirmes devant tous que tu es mon enfant, mais je ne te forcerai pas parce que je t'aime. L'amour véritable ne force pas personne à faire le contraire de ce qu'il veut faire. Dans cette vie qui est la nôtre, je le répète, Dieu nous a confié l'immense responsabilité du libre arbitre. Il y a des gens qui disent qu'après la chute, l'homme a perdu son libre arbitre, mais tout de suite après, dans Genèse, Dieu nous dit, à travers Caïn, il dit à Caïn, écoute, le péché est comme un monstre qui est tapis à ta porte, c'est à toi d'en être le maître. Tu as le libre arbitre, tu as le choix de continuer à vivre dans le péché ou d'abandonner ton péché. Et on sait bien qu'Adam, on sait bien que Caïn, à cause d'un péché de jalousie envers son frère, parce qu'il n'a pas voulu cesser de nourrir son péché, eh bien, ça finit par un meurtre. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, le libre arbitre? Ça veut dire qu'en d'autres mots, nous avons reçu de Dieu le droit de choisir le chemin que nous voulons emprunter dans ce monde. Il dira aux Israélites dans Josué, choisissez les dieux, choisissez, choisissez. Vous êtes capable de choisir. Choisissez les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient ou ceux des habitants du pays dans lequel vous habitez maintenant. Et Josué leur répondre, parce qu'il avait choisi déjà, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Soit nous marchons sur un chemin qui rend gloire à Dieu, soit nous marchons sur un chemin qui déshonore le Seigneur et nous en subirons les conséquences un jour, car un jour viendra où la volonté de Dieu s'accomplira parfaitement dans la vie de tous les êtres humains quand Jésus-Christ reviendra. Rappelons-nous que Dieu, avant d'avoir fait le monde, avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses fils à travers la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, à travers l'apôtre Paul, qu'il l'a fait parce que ça lui plaisait. Louons donc Dieu pour la splendeur de la grâce qu'il nous a généreusement donnée à son Fils bien-aimé, dit l'apôtre Paul. Voilà un beau sujet de louange pour faire monter devant le trône de la grâce de Dieu. Seigneur, on te loue parce que de ta grande générosité, Seigneur, tu as choisi qu'on passe l'éternité avec toi. Dites amen à ça ce matin. Dans les chapitres 2 et 3, nous voyons qu'un Nabuchodonosor a eu le privilège d'exercer son libre arbitre devant le Seigneur. Et dans son libre arbitre, il a décidé de continuer à vivre sa vie comme il le voulait. Je rappelle le contexte du chapitre 2. Nabuchodonosor s'est retrouvé face à Dieu avec Daniel. Et suite à un rêve qui l'avait troublé, on l'avait vu il y a quelques semaines, il a fait venir les enchanteurs qui ne pouvaient pas expliquer son rêve. Finalement, il est mis en présence de Daniel et il est confronté avec Dieu lorsque Daniel lui dit qu'il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets, qui dévoile les mystères. Et il ajoute ceci, que c'est ce Dieu qui lui a fait connaître à travers ce rêve ce qui arrivera dans l'avenir. Et Daniel lui rappelle en même temps que c'est le Dieu du ciel qui lui a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Écoute bien. C'est toi qui diriges le monde pour l'instant, c'est toi qui contrôles tout au niveau politique, au niveau militaire, mais c'est grâce à toi, c'est parce que Dieu, c'est à cause de Dieu que tu peux le faire. C'est lui qui a placé sous son autorité, il continue Daniel, c'est lui et c'est Dieu qui a placé sous ton autorité les hommes, les animaux et les oiseaux. Il en a fait le maître, il t'en a fait le maître partout où tu demeures. Et ce jour-là, le roi Nabuchodonosor s'est jeté le visage contre terre et il a décidé de se prosterner devant Daniel tout en disant que Dieu n'était qu'un Dieu parmi d'autres dieux. Verset 46. Après avoir été éclairé de façon miraculeuse à travers un rêve, son cœur était encore endurci concernant les choses de Dieu. Il était tout simplement resté indifférent à Dieu. Et ça devrait nous parler aujourd'hui. Parce que dans certaines églises, si suite à un message de ne pas pleurer, eh bien, tu n'es pas sauvé. Mais ça n'a rien à voir, les larmes. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens, vous savez, les acteurs à la télévision, au cinéma, ils pleurent comme ça, hein? Ils n'ont pas besoin de se mettre des oignons en dessous de la gorge pour faire monter des larmes. C'est comme ça. Lui, c'est son cœur qui n'était pas encore touché. Nabuchodonosor, c'est son cœur qui était toujours endurci. Il n'avait plus d'exprimer de sa bouche, mais c'est son cœur qui était endurci. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche parce que tu as compris le message et que tu l'as accepté, tu seras sauvé. Le salut comprend deux choses. D'abord, de comprendre, d'entendre le message et de le comprendre. Et ensuite de ça, de le laisser descendre dans son cœur parce que le cœur, pour que le cœur puisse être touché et pour que la puissance, pour amener la personne à la repentance et à la conversion. Actes chapitre 3, verset 19, nous dit l'apôtre Paul. Il semble qu'à ce stade, le cœur de Nabuchodonosor avait été ramolli, mais n'avait pas encore été brisé par le Seigneur. Il semble aussi que Nabuchodonosor soit devenu juste un peu plus religieux qu'il était auparavant. Encore une fois, cela pourrait décrire le comportement de millions de gens aujourd'hui. Ils ont eu un premier puis un deuxième contact avec Dieu. Ils ont été forcés de reconnaître que Dieu existe. Ils l'ont vu manifester sa puissance dans leur vie. Et pourtant, ils refusent de le reconnaître comme le Seigneur de leur vie. Le véritable message de l'Évangile, ce n'est pas juste d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, c'est de l'accepter aussi comme Seigneur. Dans toutes ses épîtres, c'est ce que Paul dit, accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Seigneur, j'accepte que tu aies pardonné mon péché, je reçois cette bonne nouvelle, mais de dire après, je vais continuer à faire ce que je veux dans ma vie, bien là, ça fait un gros problème, parce que si on continue à faire ce qu'on veut dans notre vie, on fait exactement ce que les gens du monde font. Et quand Jésus-Christ devient Seigneur, il lui dit, écoute, tu n'es plus le maître de ta vie, c'est moi qui en deviens le maître. Et j'ai payé le prix, un prix élevé pour pouvoir être le maître de ta vie. Et souvent, les gens acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur, mais comme Seigneur, ça peut prendre une partie d'une vie, ça peut prendre du temps, énormément de temps, pour que les gens cèdent tous leurs droits dans les mains du Seigneur. Et reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, c'est renoncer à ses ambitions personnelles. C'est d'accepter de porter sa croix et aussi de le suivre. Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup parmi ceux qui sont perdus correspondent au profil que l'on retrouve au chapitre 2 et au chapitre 3. Le Seigneur se révèle à eux. Ils savent que Jésus est la réponse au problème de leur péché. Cependant, ils restent indifférents à l'appel de l'Évangile, préférant satisfaire leur nature pécheresse. Il est même possible qu'ils deviennent un peu plus religieux quand l'ambiance est chaleureuse, mais cela ne produit aucun changement, ni dans leur cœur, ni dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas décidé de rompre avec le péché, ni de se repentir envers Dieu. Nous voyons cette même tragédie survenir souvent parmi ceux qui professent le nom de Christ. Nous découvrons que trop souvent, ils sont totalement indifférents à mettre en pratique la parole de Dieu et à s'appliquer à faire sa volonté. Frères et sœurs, il peut arriver que des chrétiens endurcissent leur cœur au point d'en arriver à refuser de répondre à ce que Dieu dit et à ne pas se soucier de ce que Dieu veut et à agir comme les religieux, parce que leur cœur est dur comme de la pierre. Ils ont l'apparence de la piété, dit l'apôtre Paul, mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qu'ils ont besoin de faire dans ces deux cas, c'est d'arrêter de se cacher derrière leur péché et leur religion et prendre la décision de les confesser et marcher avec Dieu afin qu'ils puissent être pardonnés et sauvés. Examinons maintenant le contexte du chapitre 4, le rêve et le rêve de Nabuchodonosor. Je ne sais pas pourquoi, dans certaines versions, les versets ne sont pas les mêmes. Alors, probablement qu'on n'a pas coupé le chapitre 3 et le 4 à la même place. Mais au verset 28 dans la français courant, et je pense que 31 dans la Louis II, Nabuchodonosor s'apprête à être béni par Dieu. Verset 31, une voix venant du ciel annonce au roi que le pouvoir royal lui est retiré et qu'il peut éviter ce jugement en se repentant et en se tournant vers Dieu. Cependant, il est clair que le roi avait choisi de continuer à vivre dans le péché plutôt que de tenir compte des avertissements du Seigneur. À ce moment-là, son cœur s'était endurci et il avait cessé d'être touché par le Seigneur. Et Nabuchodonosor s'apprêtait à récolter ce qu'il avait semé, car Dieu s'apprêtait à le briser. Et frères et sœurs, quand Dieu s'apprête à briser quelqu'un parce qu'il l'aime, parce qu'il veut le sauver, parce qu'il veut qu'il fasse partie de sa famille, il n'y a pas de moyen pour Dieu de le briser. Regardez bien ici, versets 30, 31 ou 33, 34 dans la Louis II. Aussitôt, cette parole se réalisa. Nabuchodonosor fut chassé d'entre les hommes. Il n'a pas décidé de quitter, hein? Dieu est souverain. Dieu avait une leçon à lui donner. Il fut chassé d'entre les hommes. Il se mit à manger de l'herbe, comme les bœufs, et son corps fut trempé par la rosée. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle et ses ongles aussi grands que des griffes d'oiseaux. À la fin des sept années pour amener cet homme dans le brisement, pour l'amener à la repentance, Combien notre cœur est dur et têtu, frères et sœurs? 7 années! À la fin des 7 années, déclare Nabucodonosor, je levai les yeux vers le ciel et ma raison humaine me fut rendue. Je remerciai le Dieu Très-Haut qui vit éternellement. Je me suis mis à le louer et à proclamer sa gloire. Sa souveraineté n'a pas de fin et sa royauté dure éternellement. Et les versets 29-30 ne révèlent pas ce que le roi a vu lorsqu'il se promenait sur le toit en terrasse du palais royal de Babylone, parce qu'on nous dit qu'il s'est promené, il a regardé et il avait sorti des paroles extrêmement orgueilleuses. Mais quand on regarde le verset, ça doit être le 30, et regardez ce qu'il dit. « Voilà Babylone, la grande ville que j'ai bâtie comme résidence royale, juste avant qu'il traverse ses 7 années. » Regardez comment il était orgueilleux, comment il avait un cœur endurci. « Voici la grande ville que j'ai bâtie, regardez ce que j'ai fait. Regardez les œuvres que j'ai faites. Elles montrent comment ma puissance est grande, combien mon pouvoir est glorieux. » Qu'est-ce qu'il a bien pu voir pour parler ainsi? Bien, je vais vous décrire ce qu'il a vu. Il a vu le grand mur de Babylone qui mesurait 117 mètres de haut et 27 mètres d'épaisseur. Ça, c'était son œuvre. Calculez ça. 117 mètres de haut et 27 mètres d'épaisseur. Il a vu ce mur qui mesurait 24 km de long et qui délimitait une superficie de 582 km². Les murs étaient larges, suffisamment larges pour que 4 chars puissent circuler un à côté de l'autre et lorsque de grandes courses étaient organisées. Le puissant fleuve appelé l'Euphrate traversait le centre de la ville. Sur une rive se trouvaient des terrasses couvertes de verdure, surplombées au centre par un autel. Et au milieu de la ville se trouvait un immense temple dédié au dieu de Nabucodonosor, au dieu de Bel, avec tous ses bâtiments et ses sanctuaires. Et pendant que Nabucodonosor observait en marchant cette grande ville et qu'il pouvait voir les vastes jardins et les vergers qui nourrissaient les 2 millions d'habitants de cette ville, il a parlé jusqu'à quel point sa puissance était grande et comment son pouvoir était glorieux. En d'autres mots, il a pris le mérite qui revenait à Dieu, il l'a pris pour lui. Il a pris pour lui-même le mérite qui revient à Dieu pour tout ce qu'il avait. Il avait complètement oublié les paroles de Daniel, de ce que Daniel lui avait dit dans le chapitre 2, verset 37-38, que c'était le Dieu du ciel qui lui avait donné royauté, la puissance, la force, l'honneur, et qu'il l'avait placé sous son autorité. Nabucodonosor avait aussi oublié que le même Dieu qui avait promis de le bénir avait aussi promis de le briser. Cet homme était aveuglé par son orgueil. Au verset 29 du chapitre 4, nous apprenons que Dieu a décidé de patienter une année avant de briser Nabucodonosor. Chers amis, ne commettons jamais l'erreur de confondre la patience de Dieu et l'indulgence de Dieu avec l'oubli. Dieu se rappellera toujours de notre péché, tant et aussi longtemps que nous ne l'apporterons pas au pied de la croix. Vous pensez peut-être que personne d'autre que Dieu connaît votre péché, mais si Dieu le sait, alors ça suffit. Tôt ou tard, votre péché vous rattrapera et vous en subirez les conséquences. Regardez verset 21-33, comment l'esprit de Nabucodonosor est confus. Frères et sœurs, il y a aujourd'hui des millions de personnes qui correspondent à cette façon de vivre. Ils ont le cœur profondément bouleversé, mais ils demeurent confus. Ils ont compris qu'ils devaient se repentir devant le Seigneur, mais dans leur orgueil, ils choisissent de continuer à vivre comme si Dieu n'avait rien à leur dire, comme si Dieu n'avait rien à leur apprendre. Rappelez-vous que Dieu sait exactement comment attirer votre attention et comment attirer mon attention. Et là, Dieu va décider de s'occuper de Nabucodonosor. Il sera affligé, hein, verset 30-31, par une maladie qu'on appelle aujourd'hui lycanthropie. Je vais prendre une gorgée d'eau. Qui l'a dit? Merci. Tu connais quelqu'un qui a déjà eu ça, Salvatore? Tu connais quelqu'un qui a déjà eu ça? Oui. Oui, parce que je vais vous définir ce que c'est. C'est un mot dans lequel on retrouve deux mots, lycos qui signifie loup et anthropos qui signifie homme. Ce puissant roi va agir comme un animal sauvage pendant 7 ans. Cet homme devant lequel des millions de personnes avaient tremblé était maintenant réduit à agir comme une bête misérable et répugnante. Il est entré dans cet état dès qu'il a entendu les dernières paroles du jugement de Dieu, verset 30-31. Comme je l'ai déjà dit, Dieu sait comment attirer notre attention, frères et sœurs. Il sait exactement ce qu'il y a dans votre cœur et dans mon cœur. On a l'histoire de David avec Absalom dans la Bible qui nous démontre clairement cette vérité. Si nous sommes trop orgueilleux pour nous humilier avec un cœur repentant devant le Seigneur, il prendra tous les moyens nécessaires pour vous briser et pour me briser. Ceci est particulièrement vrai si vous êtes l'un de ses enfants et que vous prenez le péché à la légère. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « Le Seigneur punit celui qu'il aime. Il frappe tout homme qui reconnaît comme son fils. Existe-t-il un fils que son père ne punisse pas? Si vous n'êtes pas puni comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, continue l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dieu nous punit pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire en bon langage courant? Que Dieu veut que nous ayons part à sa sainteté, c'est que Dieu veut que nous rassemblions la personne de Jésus-Christ qui était sans péché. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Dieu veut que nous ayons part à sa sainteté. Lui qui est sans péché, lui qui n'a pas de mal dans le cœur de Dieu, lui qui pourrait garder sa sainteté pour nous, à cause du miracle qui est accompli à la croix, à cause du miracle dans la nouvelle naissance, Dieu veut nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ pour qu'il puisse manifester sa gloire à travers vous et à travers moi. Est-ce que vous réalisez ça? Ça, c'est une grâce extraordinaire. Il pourrait dire, écoutez, il y a eu un seul Jésus-Christ, voilà. Voilà notre frère aîné, voilà notre modèle. Mais sinon, à cause du miracle que j'ai fait à travers la croix, à travers la nouvelle naissance, parce que vous avez reçu le même esprit qui habitait dans la personne de mon fils, voici l'œuvre que je vais accomplir en vous, c'est que je veux faire une œuvre, je veux vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Je veux que vous ayez part à ma sainteté. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire comme parole, frères et sœurs? Je vais vous dire honnêtement, peu importe qui vous êtes ici, puis je me parle à moi ce matin. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été brisé par le Seigneur, jamais on n'arrivera à ressembler à la personne de Jésus-Christ. On a une très haute estime de nous. On pense qu'on est rendu là au niveau spirituel. Il s'agit juste que Dieu permette une épreuve dans notre vie. On vient de descendre de deux étages. On pense qu'on a une foi extraordinaire. Il arrive une épreuve dans notre vie. Et là, on court à gauche et à droite comme des poules sans tête pour essayer de trouver de l'aide au lieu de crier au Seigneur. Au lieu de lui dire, Seigneur, je sais que tu es en contrôle de toutes choses, je te fais confiance. On perd un emploi sans se poser la question, Seigneur, ou sans se dire à nous-mêmes, Seigneur, je sais que tu as quelque chose, je sais qu'un meilleur est à venir pour moi. Seigneur, je marche dans tes voies, je sais qu'un meilleur est à venir pour moi, je n'ai pas paniqué. Et le Seigneur, à travers ces petites épreuves-là, il veut juste nous montrer, tu pensais que tu étais rendu sur la cinquième marche. Tu es encore sur la première, mon fils. Et je suis là pour te former. Je suis là pour, non pas que tu restes sur la première, je veux que tu montes en haut, parce que c'est en haut qu'on ressemble à Jésus-Christ. C'est quand on est rendu en haut de l'escalier qu'on ressemble à Jésus-Christ. Et des fois, ça peut arriver que parce que tu t'énorgueillisses, que Dieu te bénisse tellement, que je vais te faire descendre trois marches. Parce que la gloire, je la veux uniquement pour moi. Parce que tout ce que tu fais, si je ne suis pas avec toi, il n'y a rien qui va réussir. Dites amen à ça. Frère et sœur, et Nabuchodonosor, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il va comprendre ici. Nabuchodonosor, t'es rien. T'es rien si moi je ne permets pas que tu règnes sur ce monde à ton époque. T'es rien. Maintenant, tu as dépassé la dose d'orgueil. Et finalement, et là, moi, je vais régler ton problème. Je vais m'occuper de toi. Je vais te briser, pas parce que je te déteste, parce que je veux t'amener à la repentance. Et c'est ce qui va arriver. Regardez, on va lire la suite. Verset 33. Il va prendre conscience. Il va faire une prise de conscience. Il réalise enfin que ce qu'il a besoin, c'est de vivre une relation personnelle avec le Dieu des Hébreux. Il réalise que Dieu a toujours raison. Il se rend compte qu'il est un pécheur et il se tourne vers le Seigneur dans un esprit de repentance. C'est là ce que beaucoup de ceux qui affirment être sauvés ou perdus ont besoin de venir aujourd'hui. Lorsque nous atteignons cet état de brisement, que ce soit par le biais d'une tragédie ou au moyen de notre intelligence qui nous permet de nous humilier quand Dieu ne fait que simplement nous parler à travers sa parole, on réalise que Dieu veut faire sa volonté à travers nous et c'est donc tout ce que nous avons besoin pour notre vie. Tout ce que nous avons besoin dans notre vie, c'est de Dieu et de faire sa volonté. Est-ce que vous dites amen? Et on a tous besoin d'apprendre cette leçon. j'ai besoin d'apprendre cette leçon parce que ça remonte tellement facilement l'estime de soi, ça monte tellement vite au-dessus. C'est comme l'huile et l'eau, quoi. On mélange tout ça ensemble, puis ça a bien de l'air à se mélanger. Puis à un moment donné, ouais, puis ce qu'on voit, c'est l'huile qui remonte à la surface. C'est la même chose pour nous. On a de riches bénédictions de la part de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Oups, ce qui monte à la surface, c'est... Dieu te préfère quand même à d'autres, hein, pour que tu aies tout ça, ces bénédictions-là. Hein. Dieu, il t'aime quand même plus que les autres. Hein. Et là, Dieu dit, attends un peu, on va te redescendre un peu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que Dieu nous aime tous de façon égale, c'est ce qu'il a dit. Et il nous aime en plus, c'est ce que Jésus dit, c'est pas mes paroles, autant qu'il aime Jésus. Vous réalisez ça? Je l'ai déjà dit ici, à plusieurs reprises. Dieu vous aime, Dieu m'aime autant qu'il aime Jésus. Lui qui était sans péché, Dieu nous aime autant que lui, alors que nous sommes des pécheurs, nous sommes venus au monde avec le péché qui habite en nous. Et dans sa grâce, eh bien, il nous permet de recommencer une nouvelle vie avec lui. Et Jésus nous dit, chers amis, Dieu ne fait tellement pas de favoritisme qu'il vous aime autant qu'il m'aime. Essayez de comprendre cette parole dans l'Évangile de Jean. Frères et sœurs, la dimension de Dieu nous dépasse. Il y a des gens qui essayent de se casser la tête. J'en parle au groupe de base parce que ça revient souvent. Il y a des gens qui se cassent la tête pour savoir comment c'est fait la Trinité. On n'est pas capable. Vous pouvez prendre toutes sortes d'exemples, l'eau, la glace, la vapeur et tout le reste. On entre dans une autre dimension et notre intelligence est limitée pour comprendre ces choses-là. Regardez maintenant, il prend conscience il fait une prise de conscience et ensuite de cœur, son cœur est maintenant réceptif. Et nous voyons qu'il y a nettement un changement dans l'attitude de Nabucodonosor. Il avait auparavant soit ignoré Dieu ou professé de sa bouche sans que son cœur soit touché. Il commence maintenant à louer le Seigneur et à glorifier ses œuvres. C'est un homme sauvé. Et frères et sœurs, le jour où nous arriverons au paradis, nous rencontrerons un homme qui s'appelle Nabucodonosor. Il nous dira que ces 7 années de souffrance qu'il a vécues ont été la plus grande bénédiction qu'il a jamais vécue dans toute sa vie. Ce sont ces années qui l'ont brisé, qui l'ont amené à se prosterner devant le Seigneur, le Dieu du ciel, et à le recevoir dans sa vie. Frères et sœurs, je pense que je l'ai dit la semaine passée, mais je vais le répéter, s'il n'y avait pas la maladie ni la souffrance sur la terre, il n'y a personne qui se convertirait. Personne ne se convertirait. C'est une grâce que Dieu a faite qu'à travers le péché, il y ait la maladie et il y ait la souffrance. Parce que c'est là qu'on cherche Dieu. Quand ça va bien, même chez les chrétiens, chez certains chrétiens, quand ça va bien, Dieu qui était à la première place, il dégringole dans le hit parade. Il dégringole. Et qu'est-ce que Dieu fait? T'es mon enfant, tu confesses que t'es mon enfant, je m'occupe de toi. Moi, je suis ton père, je t'aime, et je vais remonter dans ton estime. Parce que moi, je n'accepte pas que ma gloire soit partagée avec personne. Frère, ça, c'est pas magnifique de parler avec Dieu comme ça. Hein? C'est magnifique. Ouais. Vous pouvez dire que cet homme est maintenant en règle avec Dieu. Il loue le Seigneur et rend toute gloire et tout honneur qui revient au Dieu du ciel. C'est là le signe d'un véritable cœur qui a été brisé. Est-ce que vous vivez comme le Seigneur le demande ce matin, frères et sœurs? Pouvez-vous dire honnêtement, pasteur, dans tout ce que je fais, Dieu est glorifié, en autant que je le sache, je lui ai confessé mon péché et j'ai été brisé au point où je me suis humilié et repenti devant le Seigneur. Nous, les humains, sommes des êtres têtus. Nous devons être brisés avant de pouvoir être utilisés par le Seigneur. Et le Seigneur a beaucoup de moyens pour briser les hommes. Pour certains, c'est la mort de quelqu'un. Pour d'autres, la maladie, le chagrin ou la pauvreté. Ou encore, ils mettent en lumière leurs péchés. Au lieu de forcer la main de Dieu, il suffit de venir à lui alors qu'il agit toujours avec patience et avec grâce. Si c'est votre cas ce matin, prenez quelques instants pour venir alors qu'il vous lance encore un appel. Je t'aime. Je t'aime. Ne me laisse pas l'opportunité de pouvoir te briser. Confesse ton péché. Repens-toi. Et marche à la manière que toi tu dis appartenir. Je veux trouver ma joie en toi. À quoi ressemble votre vie ce matin? Où vous situez-vous concernant le brisement? Pensez à Christ qui a été brisé pour vous et pour moi sur la croix, en prenant sur lui vos péchés et en prenant sur lui les miens. Frères et sœurs, on a chanté un Dieu, que Dieu est un Dieu de grâce ce matin. Et c'est vrai que c'est un Dieu de grâce. Et j'aimerais qu'on termine en chantant le cantique 154 qu'on a chanté tantôt. J'inviterai les musiciens à venir en avant. À chanter le cantique 154. Et pendant que les musiciens s'avancent, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Pendant deux décennies, un homme provoquant et arrogant du nom de Napoléon a créé beaucoup de remous en Europe. Malgré sa petite taille, 1,65 m, il a causé beaucoup de problèmes à tous ceux qui se trouvaient autour de lui. Il a cherché à récupérer une partie du pouvoir qu'il avait perdu en raison d'un exil forcé, pour ceux qui connaissent son histoire. Napoléon a conduit ses armées dans une mission de destruction à travers les champs de bataille de l'Europe. Et le 18 juin 1815, les armées de Napoléon affrontèrent les armées alliées de l'Angleterre, de la Prusse, de la Russie, de l'Autriche, de la Belgique et des Pays-Bas, dirigées par le duc de Wellington. Avant le début de la bataille, Napoléon, parlant à son commandant, déclara « Nous allons placer l'infanterie ici, la cavalerie là et l'artillerie à cet endroit. » Et à la fin de la journée, l'Angleterre sera au pied de la France. Et Wellington sera le prisonnier de Napoléon. Un des officiers qui avait entendu Napoléon placer ses pions a dit « N'oublions pas quand même que l'homme propose et que Dieu dispose. » La réponse de Napoléon, avec son arrogance typique, se tenant droit et le plus haut possible, eh bien, sur ses 1,65 m, Napoléon répondit « Je veux que vous compreniez, monsieur, que Napoléon propose et que Napoléon dispose. » L'écrivain Victor Hugo écrivit ces mots concernant cette bataille. À partir de cet instant, Napoléon venait de perdre Waterloo. Car Dieu envoya de la pluie et de la grêle, ce qui embourba les troupes de Napoléon, empêchant Napoléon d'établir sa stratégie. Frères et sœurs, on a un Dieu qui est gracieux. C'était peut-être difficile d'entendre tout ce que j'ai dit ce matin. Eh bien, ce n'est pas toujours les choses les plus faciles qu'on veut entendre, mais à travers l'histoire de Nabucodonosor, Dieu veut nous montrer que tant et si longtemps qu'on n'a pas un esprit brisé, Dieu ne peut pas nous utiliser pour sa gloire. Parce que si notre esprit n'est pas brisé, dans le plus secret, dans le plus profond de notre cœur et dans son plus grand secret, on va quand même faire des choses pour être admiré par les uns et admiré par les autres. Et ce que Dieu veut, c'est vraiment se glorifier à travers vous, c'est vraiment se glorifier à travers moi. Parce que toute la gloire lui revient. Amen. Amen. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infinis bienfaits, tout en moi soupire le jour et la nuit, après ta présence qui comble ta vie. Ça, c'est le fruit d'un cœur brisé. Levons-nous, chantons ce cantique comme une prière ce matin.